Radio Galère 14.15 FM Marseillaise. L'histoire continue et permanente, une émission proposée et réalisée par Éric Lebreux. Ibrahim Ali pour mémoire. Troisième partie, témoignage. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série Ibrahim Ali pour mémoire, nous allons diffuser plusieurs témoignages, aussi bien de ceux qui ont vécu le drame que des habitants de la Savine. Ces témoignages ont été recueillis par Radio Galère en 2000. Témoignage d'Ali Aout, qui était au moment des faits le patron du bar Le Moderne et une des premières personnes à intervenir avec ses clients, dont un médecin, auprès de la jeune victime le soir du 21 février 1995. Interview réalisée le 6 février 2001.
Vous étiez vous propriétaire du bar et le Moderne Bar avant les faits. Qu'est-ce qui s'est passé un mois avant le 21?
Un mois avant, il collait les fiches. Le Front National a collé les fiches. Ils ont eu un petit problème avec les Maghrébins. Ils ont sorti des armes. Ils ont dit de toute façon, avant les élections, avant qu'on finisse, on va se faire un arabe ou un noir. Les Maghrébins, ils sont venus me voir, moi en tant que responsable de l'établissement et en tant que responsable d'association, parce que je m'occupe d'une association aussi.
C'est quelle association ?
Association sociale d'accompagnement des étrangers. Ils sont venus me voir, me dire, oh, il y a une voiture armée et tout, ils collent les affiches du Front National. Moi en tant que citoyen, j'avertis, en passant par la voie normale, c'est-à-dire par les Vichers, je les ai avertis, j'ai une voiture, j'ai pris le numéro de matriculation. Il y a une voiture, voilà le numéro de matriculation.
C'est vous qui avez pris le numéro, c'était les jeunes qui avaient pris le numéro de...
C'est les jeunes qui ont pris le numéro, ils me l'ont donné à moi, ils m'ont dit, cette voiture-là, j'ai signalé au service de police, à l'Évêché, en disant, il y a une voiture comme ça, elle est armée, couleur, numéro de matriculation, elle est armée avec trois hommes, une femme. Ils sont armés. Ils m'ont dit, ça va me prendre en considération. Ça n'a pas donné suite. La même voiture, un mois après, jour pour jour, un mois après, j'entends tirer. Je sors, je vois ce qui se passe parce que ça tire devant chez moi. Quand je suis sorti, c'était en face. Je me suis dit que la police, elle tirait parce que souvent, il y a des petits jeunes qui touchent la gare. Là. J'ai dit sûrement parce que j'ai vu des petits jeunes et je vois des Européens. J'ai pensé que c'était la police qui tirait pour arrêter les jeunes, quelque chose comme ça. Mais quand j'ai vu le jeune, Ibrahim, il a pris une balle derrière parce que je l'ai vu tomber. J'ai dit non, la police ne tire pas sur les gens. Et je suis venu, j'ai pris Ibrahim Ali dans mes bras. Je me suis retourné, je les ai vus monter dans la Renault 18, la couleur que j'ai annoncée, et sont montés les égalades. Voilà, et après j'ai appelé les pompiers, j'ai appelé la police, ils sont venus, et j'ai dit aux policiers, ils m'ont dit, qui c'est ? J'ai dit, c'est une Renault 18, moi j'ai pas pris le numéro, mais le numéro, il y a un mois de ça, je vous l'ai donné. Voilà.
Et comme ils étaient les jeunes, quand vous êtes arrivé sur le carrefour à ce moment-là ?
C'était 5 ou 6, j'ai pas bien vu, mais c'était 5 ou 6. Les jeunes noirs, hein. Ouais, c'était 5 ou 6 venus par Saint-Louis.
Il n'y a pas d'autres véhicules, vous avez vécu combien vous avez eu des véhicules ?
Une seule, Renault 18. Renault 18 belge.
Vous avez vu la Peugeot ?
Non, la Peugeot, je ne l'ai pas vue. Moi j'ai vu la Renault 18. J'ai vu la Renault 18 parce que je le savais déjà, cette Renault 18. C'est pour ça que mon attention a été attirée dans la Renault 18.
Vous étiez seul au bar ou il y avait des clients à vous ?
Il y avait des clients. Que eux, ils sont venus. En plus, il y avait des clients qui ont été entendus par les services de police. Il y avait dans mon bar, il y avait un docteur qui est venu leur donner des petits soins sur place. Sur place, et quand les pompiers sont arrivés, il leur a donné un peu des instructions aux pompiers. C'est-à-dire des instructions, comment il fallait se prendre pour le malade, pour le Ibrahim Ali. Voilà.
Et les premiers policiers qu'ils ont fait ? Ils sont occupés du jeune, hein ?
Les policiers, oui, ils sont occupés, ils m'ont posé quelques questions. Les questions, là, qui c'est, est-ce que vous avez pris le numéro ? Je leur ai dit le numéro, moi je ne l'ai pas en tête, mais je vous l'ai déjà envoyé. Ouais, ils sont occupés, hein, les policiers sont occupés, ouais, une fois que sur les faits, ils sont occupés.
Les jeunes maghrébins qui avaient été un mois auparavant agressés par les mecs du Front National, c'était de quelle cité ?
Des créneaux.
Des créneaux, d'accord.
À côté, ils venaient pour appuyer pour venir au bar. Ils se sont fait interpeller par la voiture.
Je vous remercie.
Témoignage de Soule Ibrahima, réalisé le 11 juin 1996 au moment du procès. Soule Ibrahima était un des amis d'enfance d'Ibrahim Ali. C'est lui qui fut le premier à être braqué par Robert Lagier. il a eu le réflexe de se coucher pour faire le mort.
Radio Galère, j'ai devant moi Ibarimé Soulé qui était présent au moment des faits. Alors est-ce que tu pouvais me raconter ce qui s'est passé ce soir-là, lorsque vous êtes trouvé face à M. Lagier?
Eh bien, nous, on était une bande de jeunes pour aller rattraper le bus, tout simplement. Et que M. Lagier sort de sa voiture, qui me dit qu'est-ce qu'il y a. Il me tire dessus, je fais le mort pendant 5 à 10 secondes. Et après, je me relève. Après, je prends la fuite et je me retourne. Il me retire encore dessus, tout simplement.
Et à quel moment vous avez appris la mort de votre ami Ibrahim Ali?
Dès que je suis parti me cacher, quand je suis revenu, ben là, après, tous mes collègues m'ont dit Ibrahim Ali, ils l'ont eu. Après, on est parti le voir sur les lieux, il était par terre, et voilà. Et après, les ambulances, elles sont venues.
Avec Ibrahim Ali, vous participez à un groupe de travail, à la préparation d'un concert de rap. Pour vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez du rap, généralement? Est-ce que c'est quelque chose pour vous défouler, pour...
Le rap, c'est un truc pour les jeunes, faut pas... C'est un truc pour les jeunes, il ne faut pas traîner dans les quartiers, il ne faut pas tenir l'humeur, comme on dit. C'est un truc pour s'amuser, pour délirer, quoi.
Vous habitez toujours la Savine. Quelle a été la réaction de la population à la Savine au lendemain des faits?
Ah, c'est tout choqué. C'est tout choqué, c'était... Quoi dire?
Il y a beaucoup de communautés qui vivent à la Savine. Il n'y a pas que des Comoriens, si je m'abuse. Il y a d'autres communautés.
Non... À la Savine, ben, c'est les jeux étrangers. Il y a des Arabes, des Chinois, des Comoriens, des Libanais, des Arméniens. Ben, c'est les jeux étrangers, la Savine. Il faut tout faire vraiment de façon. Hein.
Est-ce que la cohabitation se passe bien?
Pardon?
Est-ce que la cohabitation se passe bien à la Savine? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de racisme?
Non, pas du tout. Ouais. Franchement, pas du tout. Hein. Non, pas de problème.
En dehors de la communauté comorienne, est-ce que les autres communautés ont été touchées par la disparition d'Ibrahim Ali?
Tout le monde a été touché par ce drame là, de toute façon. Tout le monde a été touché parce que c'est pas normal que des jeunes prennent. C'est pas normal qu'il y a des jeunes qui courent pour aller prendre leur bus et tout, qu'on leur tire dessus. Moi je trouve pas ça normal.
Question indiscrète, mais enfin, que pensez-vous des accusés?
Ah, sans commentaire. Hein. On ne peut pas le définir, ces mecs-là. On ne peut pas le définir.
Et que demandez-vous à la justice?
Vu que la justice t'a faite, on n'attend que ça.
Je vous remercie.
Témoignage des jeunes de la Savine lors d'un reportage de Radio Galère réalisé le 28 juin 2000 qui parle de la vie de leur cité 4 ans après le drame.
Dernièrement, quand les jeunes qui ont eu la présentation du film d'Alain Dufault sur le procès d'Ibrahim Ali, les jeunes de la Savine, du moins ceux de l'association qui s'occupe d'Iberis, ont dit oui, au moment du procès, au moment de la mort, il y en avait les politiques, là on a le sentiment d'être oublié. Est-ce qu'il y a un sentiment d'oubli, au moins au niveau de la Savine, est-ce qu'ils ont un sentiment d'être oublié par les politiques depuis?
Je pense que malheureusement, c'est une habitude. Hein. C'est pas parce que il y a eu cet assassinat que après les politiques sont venus à la Savine, à le quartier, après on les a plus revus. Il y a ça, mais les politiques ils sont toujours comme ça, malheureusement, et que on le voit quand il y a des élections, une fois que les élections sont passées, bon, on ne les voit plus. Et ça, c'est... Et maintenant, on ne doit pas se poser des questions de ces gens-là. Donc, on les connaît très bien, on sait comment ils agissent, on sait leur centre d'intérêt. Bon, maintenant, à ne pas se poser la question. Donc, les politiques, c'est les gens, c'est les habitants, c'est la population qui élise ces gens-là. Bon, c'est de réfléchir à deux fois et de se poser la question de l'utilité d'aller s'inscrire sur la liste électorale, d'aller voter, d'aller s'exprimer, parce que c'est dans ce sens-là qu'on se fera entendre.
Il y a une nouvelle génération qui apparaît maintenant à l'aube de l'an 2000 qui ont l'âge d'Ibarim ou qui approche les 20 ans. Cette nouvelle génération, à la fois de jeunes comoriens et d'habitants de la cité, sa vie, comment ils ressentent un peu tout ça? Est-ce qu'ils sont désabusés? Est-ce qu'ils sont indifférents? Et comment ils voient leur avenir? Est-ce qu'ils sont dans une situation désespérée ou est-ce qu'ils se mobilisent? Est-ce qu'ils se bougent pour s'en sortir?
Pour elle, la vie continue. Donc bon, la vie ne s'arrête pas là. Ils bougent, ils font des activités, ils sortent. La vie continue. Donc maintenant, ils ne vont pas arrêter toutes les activités qui menaient avant parce qu'il y a eu cet assassinat. Donc ils continuent toujours à bouger, continuent toujours à faire leur musique et continuent toujours à faire des activités.
Au niveau emploi, au niveau avenir professionnel, est-ce qu'ils espèrent un avenir professionnel ou non? Ou est-ce qu'ils se lancent, ou est-ce qu'ils se sentent largués complètement? Comment ils voient leur avenir professionnel, je parle.
Non, ces jeunes-là, ils sont tous, la plupart, peut-être pas 100%, mais ce sont des étudiants, ce sont des lycéens, des collégiens, donc ils vont tous à l'école. Les après-midi, ils se retrouvent, les week-ends, ils se retrouvent au niveau pour faire la musique. Ils font pas de la musique en tant qu'activité professionnelle. Donc ils font de la musique en tant qu'activité de loisir, activité culturelle. Mais bon, je pense qu'ils ont un espoir actuellement, parce que bon, l'espoir c'est celle-là, c'est que plus ils poussent un peu au niveau des études, ce qui n'était pas le cas avant, maintenant les gens commencent à comprendre que c'est cette voie-là qu'il faut y aller, parce que bon, on a plus de chances de réussir professionnellement en faisant des études qu'en restant à la maison. Donc bon, actuellement au niveau du quartier, donc il y a quand même pas mal de jeunes qui ont trouvé un emploi ou bien qui sont en formation, qui font des stages, ça c'est quand même bon à noter. Mais il y a quand même des gens aussi qui sont là, qui chôment, qui font rien.
Il existe malheureusement un racisme anti-maghrébin assez fort qui des fois peuvent déboucher au meurtre, et ça a été le cas dans les années 70, voire au début des années 80. Est-ce actuellement, il existe un racisme anti-noir, noir qui est aussi bien que pas uniquement lié contre les Comoriens, mais contre l'ensemble des gens d'Afrique. Est-ce qu'il existe à Marseille? Est-ce qu'il est augmenté ou est-ce qu'il a diminué ces dernières années?
Donc, ma connaissance par rapport là où j'ai vu, par rapport aux gens que j'ai octroyé, donc j'ai jamais, moi personnellement, vécu vu ou bien être témoin de ce type de réaction ou de comportement vis-à-vis de la communauté maghrébine. Donc, donc il est clair que on peut avoir des idées un peu farfelues, un peu choses, mais bon, ça peut-être c'est des cas isolés ou des cas particuliers, mais généralement non. À Marseille, je parle de Marseille, ma connaissance non.
Une question concernant la religion des Comoriens, qui est la majorité musulmane. Est-ce que les imams comoriens musulmans ont assumé leur responsabilité face à la mort des Barim, mais par rapport aux jeunes dans toute cette affaire?
En fait, ils n'avaient pas un grand rôle à jouer par rapport à cette affaire là-dedans, parce que bon, c'est une éducation familiale à la maison, depuis la maison jusqu'à moi. C'est-à-dire que l'éducation, on ne l'a pas uniquement à la mosquée, ou on ne l'a pas uniquement dans les places publiques. Mais ça commence par la maison, avant d'aller à la place publique, avant d'aller à la mosquée. Parce que ce qui a apaisé, ce qui a joué, l'élément qui a apaisé, c'est au niveau de la famille, des jeunes du quartier eux-mêmes. Les imams n'ont pas joué un rôle au niveau pour calmer les jeunes. Hein. Mais peut-être leur présence, notamment au niveau de la manifestation, notamment au niveau des réunions, peut-être ça a permis de calmer certaines jeunes.
On a parlé un peu de l'islam radical concernant qui pouvait toucher les jeunes d'origine maghrébine dans les girons de l'intégrisme islamiste. Est-ce que, par contre, côté comorien, avec la jeunesse comme une désœuvrée, elle est, peut-elle être menacée par l'islam radical, l'intégrisme? Est-ce que vous avez eu des échos comme quoi il y a des jeunes qui sont tombés dans le tourbillon de cet islam-là?
Non, ici non, on n'a pas eu de, on n'a pas eu des échos à ce niveau. Parce que l'islam, tel qu'on la pratique, tel que les Comoriens pratiquent, c'est un islam qui a des valeurs, d'un islam de qui est pratiqué dans le monde entier, qui est un islam qui est pratiqué partout, et qui est un islam tolérant, qui reconnaissent les droits de l'homme, qui reconnaissent certains points que d'autres peut-être ne reconnaissent pas. Mais c'est un islam modéré que les gens pratiquent parce qu'ils ont envie de pratiquer, mais à pas le forcer ni quoi que ce soit. Donc, sur l'occasion d'intégriste, même au niveau des Comores, donc on en parle rarement de ça.
Des Comoriennes, est-ce que la communauté comorienne, elle s'est développée à Marseille dans les années 70, elle s'est installée sur Marseille, elle est dans des quartiers comme la Savine, est-ce que la belle évolution, il n'y a pas un éclatement des familles comoriennes, est-ce qu'il n'y a pas une perte des identités traditionnelles avec la nouvelle génération qui vient, avec la modernité, est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux problèmes que touche la jeune comorienne comme toute communauté immigrée?
C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique, qui est un problème de génération. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, entre ceux qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui ont fait des études ici, entre ceux qui. La famille reste en Comores, entre les traditions, etc. Tout à fait logique. Dans nos communautés où, en fait, parce que l'immigration comorienne, elle est très récente, et que pour. La nouvelle génération, c'est se confronter à des traditions culturelles, etc., qui, eux, pour eux, ils vivent en Europe, donc ils ont d'autres cultures, d'autres mentalités. Mais en essayant de rassembler ces deux, ce que j'appellerais ces deux croisements de cultures, ça permettrait quand même de mieux s'intégrer, de mieux rebondir, quoi.
Il n'y a pas la crainte que la solidarité qui était traditionnelle aux familles comoriennes risque, au fil des générations, de disparaître, avec un développement d'une mentalité individualiste comme on connaît dans l'Europe occidentale.
Je ne pense pas que. Peut-être on a. Je peux dire qu'on a encore quelques années pour que ça disparaisse complètement. Et encore, je ne pense pas que ça disparaîtrait complètement dans la mesure où, depuis tout petit, à l'âge de 10 ans ou de 15 ans, etc., quand même, il y a des va-et-vient régulièrement. Des gens, soit des gens qui sont ici, ils vont en vacances aux Comores, ou bien les gens qui sont aux Comores, ils viennent en vacances ici. Il y a toujours des échanges entre la France et les pays, échange soit visuel avec les moyens techniques audiovisuels comme magnétoscope, vidéo, pour pouvoir voir les images, ce qui se passe au Comores, ce qui se passe ici, et les gens qui voyagent. Bon, je pense pas que ça effacera un coup de baguette magique cette solidarité là. Il est clair que si les gens ne font pas très attention, ce qui effacera cette solidarité, c'est la manière dont les adultes actuellement utilisent ce moyen de solidarité. Donc, comment est-ce utilisé là-bas? S'il est utilisé pour le développement, pour améliorer les conditions de vie de Comoriens là-bas, je ne pense pas que c'est un système qui pourrait disparaître.
Témoignage de Mbae Soli, le producteur de Beveis, qui était présent au moment de la répétition et de son ressenti après le procès. Cette interview a été réalisée le 7 mars 2000.
Donc, c'est dans la cité. Et quelle est la situation dans la Savine actuellement?
Ça va, ça se passe bien. Je trouve que, quoique dernièrement, il y a des choses qui m'inquiètent à la Savine.
Quel genre de choses?
Beaucoup de délinquance, quoi. Ouais.
Au moment des procès des tueurs présumés d'Ibrahim Ali, il y avait eu une commémoration juste la veille du procès, juste le jour du procès, d'une plaque à l'endroit même où Ibrahim Ali avait été tué. C'était une plaque provisoire. Il était prévu que cette place porte le nom d'Ibrahim Ali. Où ça en est, au niveau de la mairie?
Ben, silence radio, comme on dit, du côté de la mairie, malgré plusieurs lettres de rappel. Là, on va peut-être se mettre un collectif en marche pour écrire une lettre. on va attendre la réponse après, quoi.
Dernière question, est-ce que vous avez toujours des contacts avec la famille d'Ibrahim Ali?
Toujours, je sais que bon, il y a ses cousines qui sont à la Sabine, je les vois fréquemment, très fréquemment, et puis la mère, j'ai des nouvelles par l'intermédiaire de ma femme surtout, parce que moi j'arrive plus à lui parler parce que je chiale toujours, quoi, donc je préfère ne pas l'appeler.
Trop 2 ans après le verdict des meurtriers de Ibrahim Ali, est-ce que beaucoup pensent que le procès était juste, la condamnation était juste?
Ce ne sera jamais juste parce que 15 ans pour la vie d'Amino, ce ne sera jamais juste, surtout pour un mec qui a vécu 60 ans, quoi. Donc là, il n'y a pas photo, quoi. Mais disons, la seule chose positive qu'il y a eu, c'est que bon, c'est la première fois qu'il y a un verdict de cette ampleur en France, quoi, sur un crime raciste.
Je vous remercie.
En février 2021, le conseil municipal de la ville de Marseille, dirigé par Benoît Payen, maire de gauche, décide de rebaptiser l'avenue des Égalades, avenue Ibrahim Ali. La plaque est dévoilée le 21 février 2021.
Sur l'arrêt civil, il est écrit « La cour d'assises des Bouches-du-Rhône a jugé que le comportement criminel des deux hommes a été conforté par l'idéologie sécuritaire, raciste et xénophobe à laquelle ils adhéraient et que le meurtre et les tentatives de meurtre établies ont été commis à raison de la couleur de peau des victimes. »
Dans la famille, il y a des parents, mais aussi des enfants. Moi, j'en ai...
C'était l'Histoire continue et permanente, une émission réalisée par Éric Lebreu, Radio Galère, février 2026.